Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et le sujet de l'émission cette semaine, ça sera les relations internationales, et en particulier sous l'angle d'une question que je vais poser à mes invités. Se dirige-t-on vers un nouvel ordre mondial, un nouvel équilibre entre les États et en particulier entre les grandes puissances? On abordera notamment l'activisme de la Chine et sa présence de plus en plus importante, son poids dans les relations internationales et peut-être aussi une stratégie de rééquilibrage. Pour en parler avec nous dans la première partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Maya Harda. Bonjour Maya.
Bonjour Alexis.
Vous êtes journaliste, enseignante, en particulier spécialiste des questions du Proche et Moyen-Orient. Mais là, on a envie d'avoir votre éclairage sur cette question de le déclenchement du conflit en Ukraine avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, c'est-à-dire le retour de la guerre en Europe, qui était, quelque chose qui n'avait plus vu le jour depuis des décennies, n'est pas finalement un élément qui est en train de déclencher, par effet un peu papillon, d'autres prises de position, d'autres stratégies. Et comment est-ce que vous regardez ça avec le recul maintenant de plus d'une année depuis le début de ce conflit?
En effet, il va sans dire que l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février de l'année dernière était un élément déclencheur sur le plan de tous les équilibres géopolitiques dans le monde. La Chine, à plusieurs reprises, a été appelée à jouer le rôle de médiateur, et ce n'est pas nouveau. Je vous rappelle qu'au tout début de la guerre, c'était la France et l'Allemagne qui se sont concertés avec la Chine, et je me souviens très bien que ça s'est passé en distanciel. Il y avait un appel entre les trois chefs d'État pour que la Chine puisse jouer un rôle de médiation. Et c'était les tout premiers mois de la guerre. La Turquie aussi a été sollicitée pour jouer un rôle de médiation. Je vous rappelle que des responsables ukrainiens et des responsables russes se sont rencontrés à Ankara. La Biélorussie, même si son rôle n'est pas du tout crédible, a accueilli également des réunions bilatérales entre l'Ukraine et la Russie. Et donc là, on parle que de pays qui ne font pas partie du concert des nations occidentales. Donc on est loin de cette logique eurocentriste ou occidentcentriste ou américano-centriste. C'est vrai que ce conflit russo-ukrainien a dévoilé que les champs des possibles étaient ouverts à tout, surtout pour mettre un terme à cette guerre. J'aimerais aussi rappeler un autre événement différent de la guerre en Ukraine, et peut-être qu'on n'en parle plus assez. Pour moi, c'est la décrédibilisation des États-Unis avec le retrait catastrophique d'Afghanistan. Le retrait des troupes américaines qui s'est très mal passé, avec une logistique qui laissait à désirer, avec une faiblesse qu'on a vu transparaître d'une manière assez claire, une faiblesse dans la gestion, une faiblesse dans l'évacuation, que ça soit des citoyens américains ou bien des citoyens afghans qui travaillaient aussi avec les Américains ou bien même avec les Européens. Ce retrait catastrophique était pour moi comme un événement charnière qui a éloigné ou bien qui a décrédibilisé les États-Unis, le rôle des États-Unis dans le monde, et ceci a laissé en fait libre cours par la suite à la Chine de s'enhardir, à la Russie de s'enhardir aussi et d'attaquer l'Ukraine. Cette faiblesse occidentale, pour moi, a créé des failles dont ont profité beaucoup de dictatures ou de régimes absolutistes dans l'Est, à savoir la Russie, la Chine, mais pas que, l'Iran aussi, qui a dépassé le seuil des 86% d'enrichissement d'uranium. Donc on n'a que des pays considérés entre guillemets d'émergents qui sont en train de se liguer contre l'ordre mondial ou bien l'ancien ordre mondial qui tournait autour des pays occidentaux, qui tournait autour du dollar, ce dollar qui est remis en question même par Lula, qui, le président brésilien, qui à son élection a été applaudi par les démocrates américains et par le camp du président Joe Biden, et qui récemment, lors de sa dernière visite en Chine, a fustigé la pression du FMI sur l'économie mondiale et les échanges en dollars. Donc nous ne voyons pas uniquement l'émergence de certains pays pour jouer le rôle de médiateurs ou d'agresseurs, la Russie, la Chine, mais on voit aussi que d'autres pays comme le Brésil, par exemple, est en train d'avoir une attitude plutôt hostile vis-à-vis de cet ordre mondial déjà établi dans le monde. Sur un autre plan, vu que dans votre introduction, Alexis, vous avez parlé du Proche-Orient, du Moyen-Orient, nous assistons également à ce rôle chinois de plus en plus grandissant dans la région du Moyen-Orient. Et ça s'est traduit récemment par ce rapprochement auquel on ne s'attendait absolument pas, même si les pourparlers avaient commencé depuis 2 ans à peu près, mais entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cette rencontre historique qui a eu lieu en Chine, qui a marqué cette, pas réconciliation, mais cet accord entre les deux pays qui étaient des pays adversaires et qui s'affrontaient sur plusieurs champs de bataille, que ça soit au Yémen, que ça soit en Syrie, que ça soit au Liban aussi, que ça soit d'une manière générale dans la politique des deux pays au Moyen-Orient. On voit un rapprochement donc qui s'est traduit par une rencontre en Chine, une rencontre en Arabie Saoudite. Ça s'étend sur d'autres plans aussi diplomatiques avec cette visite tout aussi historique hier du ministre des Affaires étrangères saoudien à Damas. L'Arabie Saoudite qui refusait jusqu'alors que la Syrie de Bachar el-Assad retourne dans le giron des nations arabes. C'est la première, ou bien c'est le premier État aujourd'hui qui tend la main à la Syrie, qui est prêt à réhabiliter la Syrie de Bachar el-Assad et de la réintégrer dans la Ligue des pays arabes. Donc tout ça évolue à une vitesse qui est plutôt vertigineuse. Et nous retrouvons toujours ce même fil conducteur, la Chine, qui intervient à chaque fois en tant que médiateur. Mais pour moi, ce n'est pas un rôle de médiateur, parce que le rôle de médiateur, c'est pour finir un conflit. Aujourd'hui, nous assistons à un changement du centre focal, en fait, de la logique mondiale, pas uniquement de l'ordre mondial. C'est-à-dire le rôle de médiation joué par la Chine pour approcher l'Iran et l'Arabie Saoudite et la Syrie et l'Arabie Saoudite d'une manière indirecte ou bien comme conséquence à ce tout premier rapprochement. Ce n'est pas une médiation pour résoudre un conflit, mais pour réhabiliter des régimes criminels, pour réhabiliter le régime d'Iran, pour avec tous ses proxys dans la région du Moyen-Orient, comme le Hezbollah libanais, le Hezbollah irakien, mais aussi au Yémen, pour réhabiliter le régime de Bachar el-Assad aujourd'hui. Et si jamais demain, il y a une médiation comme Lula, par exemple, a préconisé en Chine, chinoise et jouée par les Chinois et les Émirats arabes unis en Ukraine, ça ne sera pas une médiation pour rendre justice au peuple ukrainien qui a été attaqué, mais plutôt pour faire des concessions aux Russes. C'est ça la médiation chinoise aujourd'hui. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est une médiation, mais qui permet de courber les Chines et de faire des concessions à des agresseurs et à des régimes totalitaires.
Mais au fond, ce que tous ces événements que vous décrivez révèlent, c'est effectivement qu'il y a une omniprésence de la Chine et une stratégie chinoise d'intervenir, non pas simplement comme médiateur, mais bien comme acteur d'un rééquilibrage. Est-ce que finalement l'objectif de la Chine, qu'est-ce que c'est ? C'est d'isoler les Occidentaux et de les ramener dans un périmètre européens, américains, et d'essayer de les affaiblir un peu partout dans le reste du monde. Et est-ce que ça veut dire aussi que la Chine se sent suffisamment puissante économiquement et militairement pour effectivement avoir une stratégie quand même un peu agressive de refoulement finalement des Occidentaux. On sait que les Chinois sont très présents aussi en Afrique. Là, effectivement, il y a un axe avec le Brésil et un partenariat aussi renforcé avec la Russie qui a agressé l'Ukraine et dont on sait que pour les Européens, c'était quand même une espèce de ligne rouge et les Chinois bien semblent finalement de s'affranchir de toute forme de respect des positions portées par l'Occident.
Oui, en fait, ce n'est pas une tentative d'isoler l'Occident, mais c'est une tentative, celle entreprise par la Chine, d'intimider l'Occident et de le mettre face à ses faiblesses, en ne respectant pas le droit international, en ne respectant pas les droits de l'homme, même si la dernière rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue chinois, lors de cette rencontre, on a rappelé l'importance de respecter les droits de l'homme en Chine. Et je trouve que la Chine aujourd'hui, elle est en train d'aller à contre-courant de tous les préceptes, de toute la philosophie occidentale qui est basée sur le respect des droits humains, sur certaines valeurs démocratiques aussi. La Chine, par ses manœuvres militaires dans la mer de Taïwan, est en train d'intimider l'Occident qui est fortement présent là-bas et qui est lié par des intérêts économiques à l'île de Taïwan. La Chine, en étant présent en Afrique aussi, elle est en train de carrément de chasser les Occidentaux du continent africain et de resserrer un peu sa mainmise ou bien l'étau sur ce continent en étant présente partout. On a vu même la Chine et la Russie manœuvrer au Mali, un pays où historiquement la France était présente jusqu'à récemment. On voit également que par le biais de beaucoup de lobbies, il y a une certaine forme d'infiltration de la Chine, même dans l'Union européenne. Et il y a une enquête qui a été lancée pour démasquer non seulement le rôle des ingérences étrangères, qu'elles soient russes, qu'elles soient qataries, mais également de la Chine au sein du Parlement européen. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est une politique agressive qui est adoptée. Et la Chine est non seulement forte donc de son économie, de sa population très nombreuse et de sa grande superficie et de son emplacement géographique très stratégique dans le monde, mais elle est forte aussi de par sa présence aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, tout comme la Russie. Ce sont deux pays qui peuvent bloquer et paralyser le monde quand ils sont présents aux Nations Unies. Et donc, cette position dont jouit la Chine est son tout premier tremplin pour intimider les Occidentaux et pour jouer des rôles que je qualifierais, même si ce n'est pas très objectif, de funestes souvent.
Alors, on a vu que dans le discours en particulier de Vladimir Poutine, dans la justification de la guerre en Ukraine, parce qu'il faut quand même bien essayer d'expliquer, de justifier, y a cette idée qu'il y aurait une guerre civilisationnelle entre un Occident présenté comme décadent par Vladimir Poutine, caricaturé dans sa liberté des mœurs, dans sa liberté d'expression, et Poutine, lui, revendiquant des valeurs traditionnelles, une espèce de conservatisme à travers tout un tas de propos, une société un petit peu imaginaire aussi par certains côtés. Est-ce que la réalité n'est pas un peu plus crue? Et est-ce qu'on n'assiste pas finalement à un rassemblement de tous les régimes autoritaires qui se donnent la main pour défendre aussi, on le sait, on a vu les événements en Iran, il y a une répression très, très vive, les libertés démocratiques publiques ont reculé par rapport à encore il y a quelques années. La Russie aussi, il y a un resserrement de l'étau. La Chine aussi met en place des dispositifs de contrôle de sa population de plus en plus serrés. Et est-ce que finalement, c'est pas plutôt ça aussi une partie de l'explication? C'est que finalement, et puis aussi le soutien au régime de Bachar el-Assad qui a massacré sa population, est-ce qu'il n'y a pas comme ça un regroupement d'intérêts de tous les régimes autoritaires qui se méfient de l'Occident parce que tout simplement ils sont complètement ils tournent le dos à un système de valeurs démocratiques?
Mais bien sûr, et c'est ce que j'ai un peu sous-entendu dans ma réponse précédente, c'est que toute cette guerre civilisationnelle qui est portée en étendard par Vladimir Poutine et même par la Chine et même par l'Iran qui ne lésine pas sur les moyens de traiter à chaque fois l'Occident avec mépris et de traiter aussi l'Occident de décadent. Tout ce langage, tout ce vocabulaire-là, il fait partie de la propagande qui anesthésie les peuples qui ploie sous le poids de ces régimes-là, sous le poids autoritaire de ces régimes-là. Mais ces propagandes restent sur le plan verbal. Il n'y a pas d'Occident décadent avec ses valeurs. Il y a un Occident en crise, tout comme il y a une Russie en crise, une Chine en crise et un pays qui s'appelle l'Iran qui est également en crise. Je trouve là qu'il y a une certaine forme de surenchère moralisatrice et qu'en réalité, comme vous l'avez dit Alexis, il y a une certaine forme d'instinct grégaire qui relie tous ces pays autoritaires. L'Iran, la Chine, la Russie, et la plus grande preuve, c'est qu'il y a des accords qui sont signés entre ces pays. Entre l'Iran, après le retrait des États-Unis, le retrait de Donald Trump, plutôt de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran en 2018, tout de suite, la Chine s'est dépêchée pour signer un accord, mais de plus de 100 pages. Je ne me souviens plus, c'était plusieurs centaines de pages entre la Chine et l'Iran. Et c'était un accord non seulement économique, mais un accord stratégique sur l'avenir de ces deux pays et de leurs relations bilatérales et de leurs relations de défense. Après l'agression de l'Ukraine et l'invasion russe de l'Ukraine, pareil, la Chine, elle a fait la même chose avec la Russie, avec, j'ai oublié le nom du traité, vous allez m'excuser les auditeurs aussi, mais c'est un traité de soutien inconditionnel à la Russie et de non-remise en question de la politique russe militaire en Ukraine. Et donc, tout cela aujourd'hui n'est pas uniquement une forme de regroupement officieux de tous ces pays, mais c'est un regroupement qui est écrit noir sur blanc par le biais de traités, par le biais d'alliances qui commencent à se définir de plus en plus et à s'enraciner de plus en plus et à attirer vers elles de nouveaux pays émergents qui veulent s'éloigner de plus en plus du giron occidental, du giron européen qui sont en crise.
Et c'est pas le moindre des paradoxes de voir Lula qui vient d'être élu face à un président d'extrême droite qui avait menacé la démocratie et les libertés publiques dans son pays. C'est quand même paradoxal, et juste peut-être un mot là-dessus, de voir que Lula préférerait resserrer les liens avec ces pays plutôt qu'avec des pays, alors qui soient méfiants vis-à-vis des États-Unis, on le comprend, il y a une histoire entre les pays d'Amérique du Sud et les États-Unis qui est compliquée, mais vis-à-vis des Européens, c'est quand même aussi quelque part une mauvaise manière, quoi.
Mais bien sûr, Alexis, vous avez très bien fait de pointer, en fait, ce paradoxe. Pour moi, ce n'est pas un paradoxe. Pour moi, c'est très révélateur de la crise de la gauche et de la droite aujourd'hui. L'extrême gauche et l'extrême droite aujourd'hui, contrairement à ce qu'elles prétendent, c'est des mouvements, pour moi, qui sont anti-souveraineté populaire, anti-souveraineté nationale et anti-valeurs démocratiques aujourd'hui. On assiste à une radicalisation du monde, à une radicalisation de la politique qui fait un pied de nez à toutes les anciennes alliances et qui s'éloignent de plus en plus du bon sens. Et ce problème d'extrême gauche et d'extrême droite, il n'est pas uniquement présent au Brésil, il est présent également en Europe. On voit très bien que même en France, aujourd'hui, il y a une cassure, une faille irréconciliable entre les deux extrêmes et si vous me permettez, je trouve qu'également les deux extrêmes aujourd'hui sont très molles quand il s'agit de fustiger les agressions étrangères, les ingérences étrangères et quand il s'agit surtout de condamner les crimes contre l'humanité, qu'ils soient perpétrés par Bachar el-Assad ou Vladimir Poutine. Ouais. La France insoumise en France n'a pas du tout voté cette loi à l'Assemblée nationale qui condamne le Holodomor. La France insoumise n'a jamais condamné les crimes qui se passaient en Syrie. Et pareil pour le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National avec quelques mouvements de droite bacharo-compatibles, je dirais, n'ont jamais franchi le Rubicon et n'ont jamais pointé du doigt les crimes, que ce soit en Syrie, et ils restent toujours mous vis-à-vis de la Russie. Donc c'est un problème de radicalisation aujourd'hui, et pour moi il n'y a aucune différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche aujourd'hui.
Sur ce sujet-là, on a bien compris votre propos. Merci beaucoup Maya Hatra. Je rappelle que vous êtes journaliste, enseignant, spécialiste du Moyen-Orient, et on a apprécié, je pense, vos analyses, et on va continuer l'émission avec Hatra Boudiab dans la seconde partie. Et en tout cas, on vous remercie Maya. À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Et pour cette seconde partie d'émission, toujours placée sur le thème bien du nouvel ordre mondial, assiste-t-on à un rééquilibrage entre les puissances, entre les régions du monde ? J'ai le plaisir de recevoir Hatra Boudiab, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, consultant en géopolitique et expert en particulier des sujets Proche et Moyen-Orient, mais on l'a dit, on est aussi sur des sujets aujourd'hui géopolitiques à l'échelle du monde. Est-ce que vous pensez que depuis le 24 février 2020, il y a une série d'événements qui font penser que les équilibres du monde, tels qu'on l'a connu ces 20 dernières années, depuis le 11 septembre, bien sont en train de changer ou pourraient changer de manière extrêmement importante.
Sans doute, le monde de l'après 24 février 2022 n'est plus comme celui d'avant, mais l'ordre des tendances existe déjà. L'expression « nouvel ordre mondial » est une ancienne expression. À chaque cran tournant, on le répète, et parfois on le répète à l'envi, mais pratiquement, pour que je puisse répondre directement, on est dans une période de gestation, une période de grande transformation. Et on ne sait pas s'il y aura vraiment un nouvel ordre mondial ou la poursuite d'une confrontation très dure qui a débuté en Ukraine et qui pourrait en fait s'étendre à d'autres théâtres de conflits ou tout simplement on persiste dans ce que j'appelle les chaos stratégiques, les désordres stratégiques. On est en désordre stratégique. J'explique que on a pensé à un moment donné, après la fin de la guerre froide, à la fin des années 1980, début 1990, il y avait beaucoup d'optimistes et à leur tête Francis Fukuyama pour parler de la fin de l'histoire. L'histoire n'est pas finie. La mondialisation a continué, mais avec des hauts et des bas. L'unilatéralisme américain n'a pas puisse maintenir l'hyperpuissance, comme l'a qualifié un jour Hubert Védrine, demeure jusqu'à maintenant la première force mondiale, la première grande puissance, les États-Unis. Mais la période de l'unilatéralisme américain s'est terminée avec le début de ces siècles et on a commencé à assister à partir de la crise économique mondiale, financière mondiale, en 2008, avec les signes de retour de la Russie, de la montée de la Chine, de la transformation de l'Europe, pas en pôle stratégique, mais en pôle économique, la montée de beaucoup de forces émergentes, de BRICS et d'autres forces puissantes et régionales, que le monde change. Que le sud et le nord se déchirent. Il y a vraiment un sud global et même dans le nord, il y a du sud, dans le sud, il y a du nord. Et il y a toujours, avec ce retour de Poutine, cette montée de Chine, la politique des dérives américaines, la volonté américaine de garder l'hégémonie à n'importe quel prix, même par rapport à leurs alliés, tout ceci a produit une flagration, un monde déchiré, une mondialisation qui est maintenant affectée. Et pour cela, avec le changement climatique, avec les Covid et la pré-Covid, le poids est lourd, et la guerre d'Ukraine, avec la prétention russe et chinoise de changer les règles de jeu, et la réussite des États-Unis à conduire l'Occident et l'OTAN pour affronter la Russie et ses alliés, tout ceci nous fait penser à la poursuite de ces conflits mondiaux, mais pour l'émergence d'un nouvel ordre mondial, il faut attendre sans doute les résultats ou l'issue de la guerre d'Ukraine et d'autres équilibres qui se dessinent à travers la planète.
On pourrait se poser la question aussi par rapport à l'ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'ONU et la charte de l'ONU. Finalement, que vaut aujourd'hui cette organisation quand des pays membres du Conseil permanent, comme la Chine, comme la Russie, ne respectent plus, ou pas, en ce qui concerne la Chine, les principes de souveraineté des États inscrits dans la charte? Et est-ce qu'effectivement, c'est pas aussi cet ordre-là qui est en train de d'être remis en cause, et peut-être un jour on dira que l'ONU est en situation de mort cérébrale, comme ça a été dit pour d'autres organisations?
On l'a vécu déjà avec l'autre organisation dissoute à l'époque de
la SDN,
la
Société des Nations avant la Seconde Guerre mondiale.
La Société des Nations avant la Première Guerre mondiale, avec la Première Guerre mondiale, elle s'est dissoute et on n'a pas eu l'émergence d'une seconde organisation mondiale qui est comme résultat de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, c'est vrai que le respect de cette charte onusienne n'est pas entier. Mais ce n'est pas simplement la Russie et la Chine qui ne respectent pas.
Oui, c'est les États-Unis aussi, au moment de la guerre d'Irak.
Beaucoup de pays on ne respectent pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on ne peut pas parler maintenant d'une alliance stratégique entre Chinois et Russes. On peut parler d'une coordination stratégique. Par exemple, la Chine, dans son histoire avec Taïwan, insiste qu'il y a toujours la Chine unie. Et il y a une reconnaissance, même occidentale, de cette Chine unie. Et la Russie, jusqu'à maintenant, la Chine jusqu'à maintenant, n'a pas même reconnu la Crimée comme partie.
Comme étant partie de la Russie.
Jusqu'à maintenant. Donc ça signifie quand même, il y a chez la Chine une ambition de développer l'ONU à la manière d'être un membre plus influent, mais avec il faut une réforme. C'est vrai que cette réforme doit exister. Même la France propose un élargissement du Conseil de sécurité, mais maintenant, ce qui est grave, que pour beaucoup d'Occidentaux, on voit tout changement dans le nouvel ordre, dans l'ordre mondial, vers un nouvel ordre, comme quelque chose d'un avantage pour la Chine et la Russie. Mais d'une façon pratique, comme il disait Ghassan Salami il y a peu de temps, l'homme blanc ne parvient pas maintenant à être dominant comme il était. Lorsqu'on voit la première puissance démographique du monde, c'est l'Inde. La deuxième puissance démographique, c'est la Chine. Et puis, lorsqu'on voit le poids de l'argent dans le sud global et le poids de ce qui se passe à Shanghai, à Brex et tout ça, on voit bien quand même un changement radical. Et pour cela, l'Occident, il faut qu'il accepte de changer les règles, mais pour plus de justice, il ne faut pas abandonner un hégémonisme ou une tentative américaine de conduire les affaires du monde comme voulaient les États-Unis d'Amérique, mais aussi de ne pas accepter une tentative chinoise de conduire le monde sans démocratie, sans droits de l'homme, sans beaucoup d'acquis qui ont été réalisés pendant ces dernières années. Est-ce qu'il y a une autre voie? Oui, il y a une autre voie. Ce qu'il propose Macron autour de l'Europe comme pôle stratégique, ça pourrait être le début de la voie. Cette absence flagrante de l'Europe de la scène mondiale, on laisse le monde entre les mains d'une bipolarisation qui se dessine entre les États-Unis et la Chine, entre les mains d'un trio mondial qui a la puissance stratégique, c'est-à-dire l'Amérique, la Chine et la Russie, et l'Europe jusqu'à maintenant. Très bien, elle existe dans l'OTAN, mais ce n'est pas suffisant. Et s'il n'y a pas une transformation de l'Europe d'un pôle économique, d'un pôle commercial, en pôle politique et en pôle stratégique, l'Europe rate son rendez-vous avec l'histoire. Comme elle disait Marie-France Garraud, elle serait en dehors de l'histoire. Et pour cela, c'est essentiel pour l'Europe et pour beaucoup de puissances de jouer les équilibres, de jouer une sorte d'une force importante pour empêcher ce qu'il a dit Macron un jour, c'est tout à fait juste, pour empêcher les grands affrontements entre les deux géants américains et chinois. Les États-Unis, jusqu'à nouvel ordre, tentent de sauvegarder sa place comme première puissance mondiale. La Chine conteste maintenant ça. La Chine n'arrivera pas à faire les poids contre l'Amérique avant peut-être 2030-2035. Mais d'ici cette période, le monde va vivre les affrontements. Le monde va vivre une période de tension sur son économie, sur l'histoire du changement climatique, sur beaucoup de choses. Et il y aura donc beaucoup de craintes de la transformation d'un conflit comme le conflit en Ukraine ou d'un conflit comme le conflit autour de Taïwan, s'il arrive un jour, en Troisième Guerre mondiale. C'est la grande crainte. La grande crainte, ce n'est pas pour un nouvel ordre mondial qui se dessine. On est en chaos stratégique mondial. Je pense, s'il n'y a pas vraiment la montée des forces qui équilibrent la scène mondiale, cette scène mondiale se dirige vers
une nouvelle confrontation
chinoise. Voilà.
Alors, la difficulté, si je puis dire, aujourd'hui, c'est que finalement, l'Europe a été entraînée, malgré elle, dans un nouveau conflit armé, puisque effectivement, aujourd'hui, le conflit ukrainien qui a dépassé maintenant l'année est un conflit qui pourrait durer encore peut-être plusieurs années. Le président Macron, quand il est allé en Chine, il s'est rendu en Chine avec Ursula von der Leyen, donc pour signifier aussi que la France, l'Europe, la France défendaient des positions communes. Est-ce que vous pensez que l'Europe pourrait, d'une certaine manière, devenir un pôle de puissance, à défaut de l'avoir voulu, bien par nécessité de réagir par rapport à l'agression russe, d'autant que l'agression russe est soutenue pour l'instant plus en mots qu'en actes par la Chine, mais rien ne dit que la Chine ne souhaitera pas à un moment donné, par exemple, renforcer son partenariat militaire avec la Russie.
Même s'il y a dans l'expression parfois quelques, si on peut réserver quelques critiques aux expressions du président Macron lors de son retour de la Chine, ça a été parfois mal compris par les gens qui ont pensé à une grande volte-face française. Mais les idées de Macron sont la continuité des idées de De Gaulle, Mitterrand, Chirac et d'autres autour de ce monde, et des changements dans le monde, du positionnement de la France. Les grands problèmes, est-ce la France a la moyen de sa politique? La réponse, malheureusement, non. Et les grands problèmes de l'Europe, c'est l'Allemagne. J'explique pourquoi. L'Allemagne, à l'époque de la guerre froide, a été sous protection américaine et elle essayait de devenir une puissance économique. Et après la fin de la guerre froide, l'Allemagne continuait à se placer sous l'ombrelle de l'OTAN et en même temps à profiter des gaz russes et de tout ce qui vient de la Russie. Et l'Allemagne n'a jamais accepté l'idée d'une Europe forte ou d'une Europe militaire. Maintenant, l'Allemagne se réveille, elle accepte de revenir au militaire, mais sous aussi l'égide de l'OTAN. Et pour cela, l'Allemagne, jusqu'à maintenant, on a vu les réactions aux propositions de problèmes de président Macron. L'Allemagne et plusieurs pays veulent toujours la protection américaine, veulent toujours cette dépendance militaire par rapport aux États-Unis. Sans poser la question, si un jour les États-Unis veulent
se retirer, comme Trump l'avait souhaité.
Voilà. Et pour cela, le problème est avant tout européen. Il n'est pas ni américain, ni russe, ni chinois. Il est européen. Et pour cela, si cette structure de l'Europe ne répond pas à cet objectif, il faut que le président Macron, au lieu de s'occuper beaucoup des retraites, avec tout le respect pour ses problèmes sociaux en France, il faut qu'il s'occupe d'essayer de transformer cette Europe en Europe des nations et faire revenir à la France sa place dans le monde. Sinon, ça reste quand même, il y a un équilibre qui se rompt. Les pays de l'Est de l'Europe deviennent ce qu'il a appelé un jour Roland Ramsfeld, l'Europe nouvelle. Et cette Europe nouvelle, c'est le front Est de l'OTAN actuellement. Ça devient vraiment quelque chose comme le point d'appui des États-Unis. Et les États-Unis pourraient un jour s'appuyer sur ces pays et négliger plus même la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Et pour cela, il faut une révision stratégique de la part de la France. Il faut un réveil allemand pour essayer de redessiner cette Europe pour qu'elle devienne un jour ce pôle stratégique. Le débat est lancé. Malgré tout, il faut... Le président Macron a le mérite de le lancer depuis 2017, mais maintenant... ces débats deviennent, à mon avis, de plus en plus urgents sur la place de la France et la place de l'Europe dans ce monde qui se dessine.
Merci beaucoup pour vos éclairages, vos analyses et ces explications, Khattar Aboudiab. Je rappelle que vous êtes politologue, consultant en géopolitique et qu'on a déjà eu l'occasion de vous entendre régulièrement sur Radio Orient et on vous remercie encore pour vos explications et sans doute on aura, en tout cas on espère, qu'on pourra vous réinviter et à nouveau pour vous écouter.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.